intéressé par rapport à la conférence d'hier, de parler dans le micro. Chers collègues, pour cette conférence d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de statistiques, après avoir d'ailleurs hésité à parler éventuellement d'autres sujets. Une des raisons était qu'il y avait un élément d'actualité prévu, qui était que cette année 2009 a pu se mettre en place. Cette année 2009 a vu se mettre en place des structures et des procédures de gouvernance entièrement nouvelles de la statistique publique, tant en France qu'au niveau européen. Et comme à ce stade, c'est passé relativement inaperçu, je trouvais utile d'en parler. Dans les deux cas, c'est-à-dire aussi bien au niveau européen qu'en France, il y a eu une nouvelle loi qui consacre l'indépendance professionnelle des statisticiens et qui met en place les institutions qui doivent permettre de la garantir. Au niveau européen, cette institution, celle qui est sur la première slide, s'appelait l'ESGAB, qui est le board de cette banque auquel j'appartiens, qui est d'une part le board d'Eurostat et d'autre part le board du système statistique européen dans son ensemble, dit le texte, as a whole en anglais, c'est-à-dire c'est dans son ensemble, mais dans son ensemble globalement, pas dans son ensemble tous séparément. Et au niveau français, cet ESGAB s'est mis en place en mars dernier, en mars 2009, et au niveau français, l'autorité de la statistique qui s'est mise en place juste avant l'été. Il y a aussi un élément d'actualité que je n'avais pas prévu, mais qui n'est pas inintéressant. Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, lundi, le président de la République va présenter les conclusions de la commission Stiglitz-Fitoussi, qui porte sur des sujets connexes des miens. D'ailleurs, moi, je n'ai pas traité les sujets de pertinence volontairement, justement, parce que comme je n'étais pas dans la commission Stiglitz, j'aurais eu un train de retard dans les réflexions, mais je juge que le sujet sur lequel ont porté les travaux de la commission Stiglitz sont des sujets importants et difficiles, sur lesquels d'ailleurs j'ai quelques idées, mais j'attends de voir exactement quel est le contenu de leurs propositions, et ceci crée un environnement favorable pour parler de la statistique. Pourquoi ces changements de gouvernance majeurs? L'objectif est d'améliorer la confiance dans les statistiques publiques. Si, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français, ceci a été jugé nécessaire, je reviendrai par la suite, c'est parce que cette confiance s'est érodée dans de nombreux pays au cours des années passées. D'ailleurs, la France n'a pas été de loin le pays le plus concerné par cela. Il y a eu d'autres pays, la Grèce, le Royaume-Uni, dans lequel il y a eu des mises en cause beaucoup plus sérieuses. Ceci ne résultait pas de sinistres majeurs et facilement localisables, mais plutôt d'une multiplication de mises en cause sur des sujets variés. Quand on voit par exemple le cas du Royaume-Uni, on voit bien que ça a été une succession d'incidents sur des sujets extrêmement divers qui a conduit à une situation de grave détérioration de la confiance. Et ceci confirme ce que les statisticiens savaient, c'est-à-dire que la statistique se situe dans un univers à trois pôles, deux qui sont anciens, qui sont la science et le pouvoir politique, et puis un troisième qui devient de plus en plus important, qui est celui de l'opinion ou de la presse, ou des rapports complexes de l'opinion et de la presse, et qui devient un élément tout à fait fondamental pour déterminer la confiance dans les statistiques. La confiance dans les statistiques est une construction complexe. La confiance ne se décrète pas, elle n'a même pas grand sens de la revendiquer, elle se construit par la gouvernance, par la qualité des statistiques, par la communication, mais je montrerai aussi qu'elle garde une part de mystère. Première partie, les progrès de la gouvernance. une activité en monopole confiée à une administration ou une agence. Il y a des organisations très diverses, mais ça ne change rien à la phrase que je viens d'énoncer. Il y a des pays, plutôt les petits pays, dans lesquels la statistique est centralisée et produite par un institut unique. Pas uniquement des petits pays. C'est le cas aux Pays-Bas, par exemple, qui est un pays déjà d'une taille respectable. Mais c'est plutôt un modèle de petit pays, dans la mesure où dans la statistique, il y a des coûts fixes relativement importants. Il y a des pays dans lesquels la statistique est décentralisée, soit géographiquement, c'est le cas dans de nombreux pays européens, notamment en Allemagne, soit fonctionnellement, avec une séparation par domaine. Ceux d'entre vous qui, un jour dans leur vie, sont allés sur le site de la statistique publique américaine, ont vu qu'il y a plus d'une centaine d'agences fédérales de statistiques. Ça, c'est le modèle extrême de décentralisation des États-Unis. Mais ça ne change rien au fait que c'est un monopole public confié à des administrations ou à des agences. Ce positionnement fait naître des soupçons sur les risques de manipulation et donc sur la crédibilité des statistiques. Donc, il ne faut pas exagérer parce que dans tous les pays, et notamment en France, il existe une solide tradition corporative dans la profession des statisticiens qui joue comme une protection contre les manipulations. Mais néanmoins, à partir du moment où la fabrication des statistiques appartient à la sphère administrative, il y a inévitablement des soupçons de ce type qui peuvent naître. On sait que l'opinion est méfiante. Dans mon papier, par exemple, je cite un sondage d'Ipsos il y a deux ans et quelques, dans lequel on demandait pourquoi les personnes n'avaient pas confiance dans les statistiques. Et la première raison qui venait, à 45%, était la réponse à la proposition suivante: parce que les hommes politiques leur font dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, l'expression « leur font dire ce qu'ils veulent » peut avoir plusieurs significations. Et ne venait qu'à 15%, donc loin derrière, la deuxième proposition, qui pourtant nous serait peut-être celle qu'on mettra en premier spontanément, qui était « parce qu'ils ne correspondent pas à la situation que je vis et à celle de mes proches ». Qui est souvent quelque chose que nous, on a tendance à mettre fortement en avant, lié notamment à la diversité des situations individuelles et au fait que quand une personne se compare à la moyenne, évidemment, elle trouve toujours que ce que décrit la moyenne ne correspond pas à sa situation à elle. Mais vous voyez, 15% de réponse sur cet argument-là, 45% relatif aux politiques. D'où l'importance du dispositif de gouvernance qui va réguler les relations des institutions statistiques avec leur environnement et notamment avec le pouvoir. Jusqu'à la réforme donc, qui s'est mise en place cette année, la gouvernance de la statistique française présentait des singularités en décalage croissant vis-à-vis des pratiques des autres pays. En France, au niveau national, aucun texte ne contenait de dispositions concernant l'indépendance professionnelle de l'INSEE et des autres services statistiques. J'ai précisé au niveau national parce que, pour une raison, c'est difficile à comprendre, dans le décret qui avait accompagné la décentralisation de l'EFER et qui avait été d'ailleurs ensuite gardé sous différentes rédactions, il était prévu que le préfet de région n'avait pas de pouvoir vis-à-vis des services régionaux de l'INSEE. Donc, c'est typiquement un texte comme il y en a dans les autres pays pour assurer l'indépendance de la statistique, mais ça n'existait qu'au niveau régional, assez curieusement, au niveau national, il n'y avait aucun texte de ce type, et donc seule, finalement, la tradition corporative permettait d'assurer une certaine indépendance des statisticiens vis-à-vis du pouvoir. Ceci s'est trouvé en contradiction formelle, visible, avec le code de bonne pratique de la statistique européenne qui avait été promulgué par la Commission en mai 2005, dont j'ai donné une citation là sur la slide, l'indépendance de l'autorité statistique à l'égard des interventions politiques et autres interférences externes dans la production et la diffusion des statistiques publiques est inscrite dans le droit. Donc dans le droit français, il n'y avait rien, pas une seule phrase qui portait sur ce sujet-là. Dans le texte que j'ai rédigé, j'ai repris un travail qui avait été fait à l'INSEE de comparaison des législations des 27 pays membres de l'Union européenne et qui faisait apparaître que seuls 4 pays n'avaient pas de clause juridique dans leur droit protégeant l'indépendance professionnelle des statisticiens. La situation française était donc très singulière, en tout cas très minoritaire. Cette singularité avait été critiquée dans le rapport des pairs de janvier 2007. Le rapport des pairs, qu'est-ce que c'est ? L'Union européenne a mis sur pied un dispositif de jugement par les pairs qui permet d'apprécier justement la conformité des différents pays au code de bonne pratique de la statistique européenne. Et l'INSEE avait été visité par un groupe de pairs en janvier 2007. Le rapport de ce groupe de pairs n'avait pas émis de soupçons particuliers sur l'indépendance de la statistique française, mais en revanche, ils avaient recommandé clairement que le droit français évolue et que l'indépendance professionnelle des statisticiens soit inscrite dans le droit français. Dernier point, un peu pour mémoire, mais il faut quand même le dire, autant sur la protection de l'indépendance professionnelle, le droit français était très atypique et après moins satisfaisant que celui de la plupart des autres pays en Europe ou ailleurs. En revanche, du côté d'un autre aspect qui est important, c'est-à-dire l'expression de la demande sociale et la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques, le Conseil national de l'information statistique, le CNIS, on peut juger que lui respectait les meilleurs standards internationaux. Dans mon expérience, j'ai pu constater plusieurs fois que grâce au CNIS, il était plutôt plus facile en France que dans la plupart des autres pays d'organiser justement cette concertation, soit avec les utilisateurs, soit avec les enquêtés quand il s'agit d'enquêtes, ce qui est d'ailleurs probablement un héritage de ce qu'a été la planification française et qui fait que ce type de relation avec les partenaires sociaux en France s'organise assez facilement. Au-delà de la singularité au niveau international, l'absence de fondement juridique à l'indépendance professionnelle présentait des inconvénients modérés mais réels. Parce qu'après tout, c'est pas un objectif extraordinairement utilisateur que simplement ressembler aux autres, encore que quand tous les autres font la même chose, il y a souvent des raisons. Mais sur le fond, on voyait que cette singularité avait des inconvénients. Ça porte pas principalement sur les calculs eux-mêmes, mais sur le résultat des statistiques, encore que, il peut toujours y avoir des tentations. Pour ceux d'entre vous qui ne voient pas bien le paysage institutionnel, il faut comprendre d'abord que la fabrication des chiffres, c'est un processus. Ça se fabrique, les chiffres. On ne peut pas penser qu'il n'y a qu'une méthode pour fabriquer un chiffre. Il y a des choix méthodologiques à faire. Et je dirais même que dans la vie quotidienne des statisticiens, il y a quelquefois des choix à faire dans la phase finale de production du chiffre. Ce n'est pas toujours un dispositif réfléchi, préparé à l'avance, qu'on appuie sur le bouton à froid, ça sort le chiffre. Quelquefois, c'est plus compliqué que ça. Sur des questions, par exemple, aussi simples que quelle est la durée qu'on prend pour faire la correction des variations saisonnières, il y a quelquefois des arbitrages, y compris dans la fin de la fabrication qui sont à rendre. D'une part, et d'autre part, tel que fonctionne l'État français, il y a auprès des ministres, des jeunes gens, extrêmement dégourdis intellectuellement et extrêmement compétents. C'est-à-dire que les collaborateurs des ministres en matière statistique sont aussi compétents quasiment que ceux qui fabriquent les chiffres. Donc, évidemment, ils peuvent avoir leur opinion sur des façons alternatives de calculer des chiffres qui donneraient des résultats plus sympathiques. C'est donc, bon. Donc les tentations ne sont pas trop fortes, mais elles peuvent néanmoins exister. Là où les frictions sont néanmoins les plus fréquentes, on pourrait dire qu'elles sont vraiment fréquentes avec les ministres, c'est sur deux sujets qui portent tous les deux sur la diffusion. L'un, c'est sur le choix des dates de diffusion, et l'autre, c'est sur l'accès du gouvernement aux informations préalablement à la diffusion publique. Alors, deux mots sur chacun. sujet. Le choix des dates de diffusion. Donc, les règles internationales qui se sont mises en place depuis longtemps ont veillé à faire en sorte que la publication des chiffres ne puisse pas être intégrée dans un scénario de communication politique préparé à l'avance par les autorités. Donc, de ce fait, le pouvoir de détermination des dates de diffusion a été donné aux instituts statistiques. Il peut arriver que ça tombe mal pour le gouvernement, et dans ces cas-là, ça peut créer des situations. Je ne dis pas ça pour critiquer les politiques, je vous donne un exemple. On prévoit une date de publication d'un chiffre. Mettons un chiffre sur les finances publiques. Sans que ceci ait été prévu à l'avance, la veille de la publication du chiffre, le ministre est convoqué à la commission des finances de l'Assemblée nationale pour y faire un exposé. Que fait-il ? Il connaît le chiffre, si c'est à la bonne heure, quoi, et il ne va pas cacher à la commission des finances de l'Assemblée nationale un chiffre qu'il connaît. Vous voyez, donc il y a des problèmes réels liés au fait que les dates sont déterminées à l'avance et qu'on essaye de... Dans ces cas-là, évidemment, le ministre a envie de dire « vous pourriez m'avancer la date de diffusion de 24 heures, ça me fait bien la vie, il n'y a pas complètement tort. » Il peut arriver qu'il y ait des négociations de ce type, et après tout, ça n'est pas ce qu'on a fait. L'accès du gouvernement aux informations préalables à la diffusion publique est là un sujet encore plus délicat. Bon, il y a maintenant pas mal de pays qui ne font aucune diffusion précoce des statistiques. Je dirais même que ça se répand. Dans les pays scandinaves, par exemple, aujourd'hui, l'idée d'avoir... Les gens qui ont droit à l'information avant les autres est une idée qui est presque choquante sur un plan philosophique, c'est-à-dire la statistique sert l'ensemble de la société, et puis après tout, il y a des problèmes de débit initié, des choses comme ça qui ne sont pas complètement sans importance, donc on sort le chiffre et tout le monde l'a. Dans pas mal de pays, il y a une communication anticipée au gouvernement pour une raison qui n'est pas mauvaise. Qui est la suivante, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est accepté par les codes internationaux, aussi bien le code européen que le code du FMI qui joue un grand rôle sur ces questions-là, c'est que dès que le chiffre est sorti, le gouvernement est harcelé, notamment par la presse, sur quelle est votre réaction au chiffre. Donc c'est vrai que pour le gouvernement, s'il découvre le chiffre à la même heure que tout le monde, et si à ce moment-là, tous les journalistes téléphonent en disant qu'est-ce que vous en pensez alors qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir, c'est un problème. Donc, dans pas mal de pays, comme en France, il y a une communication anticipée. La règle usuelle de l'INSEE, c'est de transmettre les chiffres la veille à 18h au gouvernement. Ce moment ayant été choisi parce qu'on se dit la veille à 18h, il n'y a plus le temps de refaire le calcul. Et en même temps, il reste toute la soirée, les jeunes gens de cabinet travaillent tard, il reste toute la soirée pour préparer la réaction. En général, les statistiques sont publiées à 8h45, donc il reste toute la soirée, toute la nuit, pour préparer la réaction du gouvernement. Bon, ceci dit, ça crée des situations de tension qui peuvent être assez vives, puisqu'il peut arriver que le chiffre soit disponible avant 18h, et donc on se trouve dans la situation dans laquelle le directeur général de l'INSEE a le chiffre, le ministre ne l'a pas, de temps en temps le ministre attend le chiffre en étant un peu nerveux, sur ce que va être le chiffre, donc il y a des enjeux politiques forts sur ce chiffre, il y a des ministres qui peuvent avoir beaucoup d'impatience, beaucoup d'autorité, et donc il y a un moment un peu délicat où évidemment le ministre va chercher à faire pression pour avoir le chiffre plus tôt, ce qui n'est pas scandaleux, mais plus ça remonterait dans le temps, et plus il y aurait le risque de pousser à une modification des calculs. Responsabilité anormalement lourde pour le directeur général de l'INSEE, puisque dans la pratique, en fait, que ces frictions se produisent à l'INSEE ou qu'elles se produisent n'importe où dans le système statistique, c'est en fait le directeur général de l'INSEE qui a géré ça. Elle est anormalement lourde dans la mesure où il se retrouve extrêmement seul. Vous voyez que la seule structure d'organisation dans laquelle est inséré le directeur général de l'INSEE, c'est la structure d'un ministère. Or, justement, les gens qui sont autour de lui, il n'a pas le droit, notamment le ministre, qui est son interlocuteur hier mal, justement, c'est la dernière personne à qui il faut qu'il parle de ce genre de sujet. Donc, il se retrouve seul pour gérer ce type de problème, ce qui n'est pas simple dans une configuration normale de gouvernance. Utilité d'une autorité de gouvernance aussi pour témoigner de l'absence de pression. Dans le papier, je cite l'exemple du report du cadrage des statistiques de chômage que j'avais décidé en 2007. Bon, c'est vrai que dans ce type de cas, s'il y a des soupçons, s'il y avait tel cas qui naissent ici ou là, s'il y avait une instance de gouvernance, ça serait beaucoup plus simple, quoi, parce qu'on ferait partager l'ensemble du dossier à l'instance de gouvernance, et à ce moment-là, il y aurait une institution un peu distanciée qui pourrait argumenter sur le sujet, d'ailleurs, dans le sens qu'elle souhaiterait, et notamment pour témoigner de l'absence de pression, tandis que, évidemment, dès que les choses sont gérées par un seul individu, c'est beaucoup plus compliqué. La réforme de la gouvernance de la statistique française s'est progressivement imposée. Les choses se sont passées de la façon suivante, je ne vais pas reprendre tous les épisodes parce qu'ils ont été nombreux. Donc, au niveau européen, les choses s'étaient bouclées en novembre 2005 par des décisions d'Ecofin qui avaient mis sur pied le dispositif de surveillance de l'application du code de bonne pratique de la statistique européenne. Un élément pas sans importance, c'est que dès les jours qui ont suivi l'Ecofin, Gordon Brown, dans un beau discours, d'ailleurs un grand discours, un beau discours, a annoncé la réforme de la gouvernance de la statistique britannique, qui a d'ailleurs été mise en œuvre depuis, et moi-même, d'ailleurs, au même moment, j'avais établi un projet de décret qui n'a pas eu de suite, mais qui était branché sur la même philosophie, c'est-à-dire d'une part l'affirmation de l'indépendance professionnelle des statisticiens, et d'autre part la création d'une institution visant à le garantir. Donc ce projet de décret n'a pas eu de suite, mais en revanche, dans les années qui ont suivi, il y a un certain nombre d'éléments qui ont montré que, finalement, il y avait un consensus assez large sur l'idée qu'il fallait, comme le dit le Code de bonne pratique, inscrire dans le droit l'indépendance professionnelle des statistiques. Un élément important a été la mission Muet-Mariton. Muet, c'est celui que nous connaissons, Carlin, maintenant député du Rhône, et qui présidait cette mission. Ce qui s'était passé était assez intéressant, parce que Muet-Mariton était parti sur l'idée, quand ils ont créé leur mission, de parler de la façon de calculer les statistiques, de la façon de calculer l'indice des prix, de la façon de calculer le chômage, de la façon de calculer le PIB, bon. Et puis en cours de route, assez intelligemment, l'un et l'autre se sont aperçus que c'était pas un sujet qui avait une très forte consistance, au sens où, ma foi, des députés n'avaient pas des choses particulièrement intelligentes à dire sur la façon de calculer l'inflation, la façon de calculer le chômage, la façon de calculer le PIB, quoi. Donc ils ont écrit des choses sur ces sujets-là, mais qui sont finalement extrêmement banales. Et en revanche, ils ont compris que le sujet de la gouvernance, ça c'est un sujet de député, justement. Ça, c'est un sujet de député. Et ils ont été très loin dans cette voie-là, puisqu'ils ont été jusqu'à rédiger une proposition de loi qu'ils ont joint à leur rapport. Et de ce fait, leur travail a été utile, je crois, à la suite de la réforme. Je cite pour mémoire la mission du Général des Politiques Publiques, de l'Inspection Générale des Finances, qui aussi avait travaillé sur cette question-là. Et tout ceci a débouché sur l'article 144 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui crée une autorité de la statistique publique qui veille au respect du principe d'indépendance professionnelle, etc. Depuis, est sorti le décret du 3 mars 2009 qui a prévu la mise en place de cette autorité de la statistique publique, la nomination de Paul Schumpeter à sa tête, ce qui est un excellent choix, la nomination des autres membres, et donc ceci a démarré juste avant les vacances. Et j'ai intitulé cette partie les progrès de la gouvernance parce que je pense que nous avons à cette occasion vraiment mis en place quelque chose qui va faire progresser la statistique française. Non pas que ça remplace la tradition corporative qui reste utile, déontologique, mais je pense que cette façon de procéder que la normalisation internationale nous a poussé à adopter est un progrès en étant additionné à la tradition de déontologie. Une étape donc importante a été franchie. Ceci dit, comme je l'ai dit dans l'introduction, la confiance ne dépend pas uniquement de la gouvernance, même si la gouvernance est importante, elle dépend aussi beaucoup de la qualité des statistiques et de la communication des instituts statistiques. C'est évidemment un objectif très important pour les statisticiens qui essayent en permanence de travailler conformément à la science, d'appliquer les meilleures méthodes, d'être rigoureux. Ceci a toujours existé. Depuis un certain nombre d'années, il y a une importance croissante, d'ailleurs pas uniquement dans ce domaine-là, mais dans beaucoup d'autres domaines, des méthodes de management de la qualité qui sont nées plutôt dans les pays nordiques, puis après qui se sont étendues en Europe continentale, qui sont des méthodes donc inspirées de l'industrie manufacturière et qui visent à industrialiser d'une certaine façon les processus de qualité en ayant un pilotage direct par la direction de ces questions de qualité, des efforts de communication importants qui visent à le faire partager par le corps social, et des processus de labellisation externe qui viennent récompenser les efforts ainsi consentis. Pendant longtemps, en France, il y a eu, dans ce domaine comme dans d'autres, une certaine condescendance vis-à-vis de ces méthodes. Ces méthodes très procédurées sont des choses difficiles à intégrer à la culture nationale, avec multiples travaux qui montrent que nous avons un certain mal à nous adapter à ce type de fonctionnement, notamment parce que cette procédure de qualité vise à éviter l'incident, et comme beaucoup de gens l'ont montré, la France aime l'incident, en fait. Hein, c'est la gestion de l'incident qui crée la cohésion du groupe, qui permet à chacun de montrer sa valeur. Enfin, c'est évident que nous avons tous quelque chose comme ça dans notre culture nationale. Donc ces méthodes qui viennent des cultures où on n'aime pas l'incident, comme M. Taguédelage, par exemple, dans le bouquin de Gary Barron, par exemple, vous savez qu'il compare plusieurs usines installées dans plusieurs pays, et il y a une usine qui se trouve aux Pays-Bas et une usine qui est en France, et Pays-Bas, l'incident est craint. Les gens, la chose la pire, c'est l'incident, c'est le truc qui va fonctionner. Alors que dans l'usine française, tout le monde attend l'incident, mais attend l'incident positivement, pour le jour où on va démontrer qu'on sait traiter l'incident. C'est très bien décrit, c'est des usines de Saint-Gobain, je crois, si vous me souvenez bien. Donc nous, on avait une certaine distance par rapport à ces méthodes, mais qu'on a réussi à surmonter. Et par exemple, en matière statistique, depuis 2006, l'INSEE a des procédures tout à fait conformes à ces quality management processes qui ont été intégrées de l'étranger. Ceci, même si la qualité est devenue quelque chose de très important, il subsiste des incidents majeurs. Sans en raconter trop, parce que des anecdotes peuvent être infinies, il y a le problème de l'erreur, tout bêtement. Il ne faut jamais sous-estimer le problème de l'erreur. Dans le papier, je cite par exemple le Canada, qui en 2006 a découvert que depuis 5 ans, l'indice des prix à la consommation était faux. Le Canada, qui est dans la plupart des rankings internationaux considéré comme l'institut numéro 1 au monde, pendant 5 ans, l'indice des prix à la consommation est faux parce qu'il y avait une erreur, un bug de calcul sur le calcul du prix des hôtels. Alors quand vous avez dans ces grosses chaînes informatiques une petite erreur comme ça sur le prix des hôtels, et qui s'intéresse au prix des hôtels, il n'y a pas de mesure, donc pendant 5 ans. Alors ça veut dire que toutes les indexations derrière, les salaires, les obligations, quoi, évidemment on ne révise jamais les indices de prix, hein, juridiquement, dans aucun pays on ne révise les indices de prix, facile, enfin, si, les statisticiens peuvent les réviser, mais évidemment ça ne change pas, heureusement, sinon pour refaire 5 ans après. Enfin, donc il y a des problèmes comme ça. Il y a des problèmes plus standards, et qui ne sont pas si faciles que ça à traiter, qui sont les problèmes simplement de sampling errors, c'est-à-dire quand vous travaillez avec les enquêtes, évidemment, hein, vous interrogez 60 000 personnes et vous dites que ça va dire ce qui se passe pour 60 millions. Évidemment, on a un risque, parce que si les 60 000 ne sont pas représentatifs, comme on dit en statistique, des 60 millions, on pourrait raconter n'importe quoi. Et les centaines d'erreurs, c'est quelque chose que même les publics cultivés ont du mal à comprendre. Hein. Les intervalles de conscience, de confiance, les intervalles de confiance sont compris par le public, même le public très éclairé, comme des fourchettes. Hein. Donc si vous avez un intervalle de confiance à 95%, le statisticien sait, mais le public ne comprend jamais, qu'une fois sur 20, on va taper à côté. Et que de temps en temps, alors c'est plus rare qu'une fois sur 20, vous pouvez taper à 4 écarts-types, 5 écarts-types, 6 écarts-types, quelquefois, vous pouvez avoir un tirage qui ne correspond pas du tout à la population que vous voulez observer. Donc ça, il faut l'intégrer. Et puis vous avez de plus en plus maintenant des problèmes de non-réponse. Aujourd'hui, dans les grandes enquêtes, je ne parle pas du recensement, hein, mais dans les grandes enquêtes, vous avez souvent des non-réponses qui sont 50-60%, voilà, donc ils ne sont pas très élevés. Ceux qui répondent sont représentatifs de l'ensemble, une fois c'est pas un problème, vous n'avez pas un résultat biaisé, mais il arrive assez fréquemment que la non-réponse soit corrélée à ce qu'on cherche à mesurer. C'est typiquement le cas sur le chômage. Sur le chômage, il y a évidemment un lien entre le fait que les gens travaillent et ne travaillent pas, et le fait que l'enquêteur, quand il va sonner à la porte, il les trouve ou ne les trouve pas. Pour parler vite, il trouve plus facilement les chômeurs que les non-chômeurs. Et la même chose quand c'est des enquêtes par téléphone. Donc vous avez une corrélation entre le taux de réponse et la situation globale. Donc là, vous arrivez à des incidents possibles qui sont importants. Et pas très étonnant que dans pas mal de pays, l'enquête d'emploi notamment, qui, comme chacun sait, ne sert pas à mesurer l'emploi, mais sert à mesurer le chômage, était souvent en cause. Sur les comptes nationaux, il y a eu des débats particulièrement fréquents. Ce qui est finalement est assez normal, puisque les comptes nationaux jouent un rôle absolument considérable, peut-être même excessif, hein, dans le débat public, à la fois les chiffres de croissance, puis le Maastricht, le déficit, etc. Et donc le débat s'est beaucoup polarisé sur les comptes nationaux. Un mot sur la mesure de la qualité des comptes nationaux. Le principal moyen qui est utilisé, c'est l'analyse des révisions, donc la comparaison par rapport à l'estimation finale. Alors ça peut être critiqué, évidemment, parce que l'estimation finale, elle-même, n'a pas à être bonne, hein, même une fois qu'on a tous les renseignements possibles. Simplement, juger la qualité de l'estimation finale, c'est extrêmement difficile. Disons, la seule façon, c'est de mettre en regard, par exemple, la statistique de croissance et la statistique d'emploi, ou des choses comme ça, et puis de juger que c'est cohérent ou que c'est pas cohérent, c'est extrêmement difficile. Par contre, il y a des travaux extrêmement nombreux qui visent à regarder, à examiner comment on va progressivement réviser les chiffres en considérant que le chiffre final est le bon et en voyant à quelle vitesse on a estimé des chiffres proches du chiffre final. Alors, ces travaux sont nombreux. Leur conclusion systématique est que la France se situe parmi les pays qui ont des performances de précision extrêmement bonne, dans le paquet, par exemple, je cite une OCDE qui est très complète de 2007, sur l'écart absolu moyen entre la première estimation et la dernière seulement entre guillemets, parce que quelquefois c'est jamais stabilisé, notamment pour les comptes trimestriels français, mais enfin ça bouge quasiment plus, ça bouge qu'à la troisième décimale. Cet écart en France était de 0,27%, le Canada était aussi à 0,27%, le Royaume-Uni à 0,26%, grosso modo c'est ces trois pays qu'on retrouve toujours sur les révisions les plus faibles, hein, le Canada, la France et le Royaume-Uni, mais l'Allemagne 0,31, le Japon 0,76, les Pays-Bas 0,55, les États-Unis 0,34 un peu au-dessus des meilleurs pays européens, mais avec une fraîcheur, une rapidité de publication qui est plus grande, donc c'est pas une mauvaise performance pour le Bureau of Economic Analysis d'avoir cette précision-là. Mais il reste des problèmes qui sont, à mon sens, très sérieux. D'abord, je trouve que ces révisions sont très importantes. Et donc, quand j'étais en responsabilité, je n'ai jamais été étonné que les responsables gouvernementaux ou les banques centrales trouvent que ça n'allait pas. Parce que, donc, un écart absolu moyen de, je disais 0,27, hein, par le CDE, en disant un quart de point. Un quart de point d'écart absolu moyen, dans une période où la croissance, c'est très trimestriel, hein, dans une période où la croissance moyenne française était de 2% par an. Donc, ça veut dire un taux de croissance moyenne trimestriel d'un demi-point. Donc, ça fait un écart absolu moyen qui est la moitié de ce qu'on cherche à mesurer. Je trouve que c'est élevé et que bonne raison de ne pas s'en satisfaire. D'autre part, pour des raisons compliquées, on a pu montrer que les révisions sont biaisées, ce qui dans certains pays est assez facile à comprendre. Dans le cas français, c'est beaucoup plus difficile à comprendre parce que normalement, la méthode même qui est utilisée par les comptes trimestriels devrait empêcher les biais, puisque tout est fondé sur des estimations économétriques, donc normalement ça annule tous les biais, mais pourtant, malgré ça, il y a un biais vers le haut, c'est-à-dire les révisions ont tendance à faire monter les chiffres, ce qui explique que les premières estimations ont quelquefois été qualifiées par les hommes politiques de pessimistes. Vous vous souvenez d'une phrase que François Fillon avait proposée, avait prononcée utilisant cet adjectif. Ça n'est pas si faux que ça quand vous voyez les chiffres. C'est vrai que les révisions. La France n'est pas la plus touchée, mais il y a des pays où c'est massif, ont tendance à faire monter les chiffres. Je passe rapidement sur ce point-là qui m'avait intéressé parce que pendant longtemps j'ai entendu dire que la volatilité des estimations de croissance s'était aggravée. Comme j'avais un peu de temps pour travailler cette intervention, j'ai regardé les choses d'assez près et je me suis aperçu que ce n'était pas le cas, en fait, que quand on examine de près la situation, la volatilité des estimations de croissance est finalement restée assez constante. Et j'ai regardé de très près aussi le seul cas où, dans la période récente, il y a eu un franc zigzag des estimations de croissance, qui est entre le T2 et le T3 de 2006, de très très près. Et j'ai vu qu'en fait, ce zigzag, il n'avait pas été prévu, puisqu'à l'époque, l'INSEE avait prévu 0,6 et 0,5, donc 1,1. Aujourd'hui, les estimations, c'est 1,1 et 0, ce qui peut paraître incohérent, parce que la tendance de l'époque, c'était plutôt une croissance de 2%, mais quand on regarde de près, on voit que ça correspond, en fait, à des mouvements réels. Je ne veux pas tout décrire, mais le principal était la Coupe du monde de foot, qui s'est déroulée au troisième trimestre 2006, et à l'époque, qualifié, on allait en finale, en 2006. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième trimestre, vous avez une surcroît de croissance liée aux achats de téléviseurs, ce genre de choses. Et au troisième trimestre, vous avez eu la chute de croissance liée au fait que les restaurants et les entreprises de spectacle ont connu une chute liée au fait que pendant tout le mois de juillet, les gens restaient chez eux pour regarder la télévision. Et donc, c'est ça la principale raison. Mais bon, peu importe les circonstances en question, ce qui me paraît important, c'est que quand on regarde un cas comme ça de très près, on s'aperçoit, ce qui d'ailleurs peut poser des questions pour les statisticiens ou les comptables nationaux, que finalement les chiffres ont été très bien descriptifs de la réalité, sauf que c'est une réalité qui n'a pas d'intérêt pour la description conjoncturelle ou la description du cycle. Vous voyez, mais on commence à avoir un appareil de mesure qui est tellement précis qu'il va vous incorporer, y compris des choses qui ont un intérêt extrêmement limité pour la description du cycle. Pour conclure sur ce point, je pense que les instituts statistiques doivent impérativement améliorer la qualité des comptes nationaux. Il faut absolument éliminer le biais vers le bas des premières estimations et réduire l'écart type. Ça devrait normalement être possible parce qu'il y en a dans la littérature des tests qui montrent que les révisions sont corrélées à des indicateurs qui sont disponibles dès le début. Alors, à mon avis, ça ne doit pas pousser à faire des choses, vous voyez, des corrections apparentes, quoi, pour qui seraient un peu bêtes. Il vaut mieux améliorer la qualité de fond du processus de fabrication des comptes que de faire ce genre de corrélation non structurelle. Hein. Mais en tout cas, ça montre qu'avec de l'information qui est disponible très rapidement, on pourrait abstraitement améliorer la qualité. Donc, ça doit être possible. Et il y a des travaux, je vais passer rapidement là-dessus. Qui permettrait, à mon avis, de s'engager dans cette voie. Le grand choix qui est à faire, qui est un choix d'organisateur politique statistique, mais à faire avec les autorités, c'est que, grosso modo, on peut considérer que dans la période récente, tous les gains de productivité députés sont allés au raccourcissement des délais de publication. Il y a eu des gains considérables sur les délais de publication des groupes nationaux, notamment liés à la mise en place de l'Union économique et monétaire et à la pression de la Banque centrale européenne qui a pesé très lourd pour faire raccourcir les délais de publication des statistiques. Et mon sentiment, c'est que pour le raccourcissement des délais, ça va bien, et qu'on pourrait s'arrêter pendant quelques années et consacrer les gains de productivité à améliorer la précision des comptes nationaux. La communication. Les instituts statistiques communiquent énormément. Je ne sais pas si vous avez une idée de la masse, mais grosso modo, un institut comme l'INSEE publie tous les jours. Et les reprises dans la presse, quand vous additionnez la presse écrite, radio, télé, et même, c'est sans compter les sourcils, c'est hein, les vraies reprises, c'est de l'ordre d'une centaine par jour. Donc c'est une masse. Masse considérable à la fois de communication et de diffusion à travers les grands organes de presse. Dans l'ensemble du monde, les modes de communication sont semblables, à la fois en raison des normes internationales et de pratiques communes. Les normes, c'est d'une part en Europe le code européen dont je parlais tout à l'heure, et d'autre part les normes de publication du Fonds monétaire international qui, historiquement, jouent un rôle important et qui continuent d'ailleurs à être appliquées. Donc ça consiste à annoncer les calendriers à l'avance, à traiter tous les interlocuteurs de façon égale, sauf certains d'entre eux, comme les gouvernements dont je parlais tout à l'heure, mais en encadrant les dérogations dans des dispositifs qui sont très surveillés. Et tout ceci aussi prévoit les réactions à avoir en cas de fuite, en cas d'erreur, en cas de retard. Tout ceci est nettement codifié. La communication est cependant souvent l'objet de critiques. Et je voudrais notamment parler plus précisément de l'inflation et du pouvoir d'achat, parce que assez souvent, les débats qui ont été assez aigus, qui ont eu lieu sur l'inflation et le pouvoir d'achat, ont été mis sur le compte de déficiences de communication. Pour revenir sur cet épisode historique, à partir de l'introduction de l'euro, est apparu dans l'ensemble de la zone euro un écart important entre l'inflation mesurée et l'inflation ressentie. Mille preuves de ceci, mais on en a même compris des preuves chiffrées. Par exemple, on peut mesurer l'inflation ressentie dans le cadre de conjoncture européenne au plus large, et donc on peut avoir des mesures tout à fait précises de cet écart, pays par pays. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des pays qui sont sortis de cette phase d'écart plutôt que d'autres. L'Allemagne, d'abord les Pays-Bas, ensuite, et puis la France est restée pendant très longtemps avec un écart qui subsiste encore entre l'inflation mesurée et l'inflation ressentie. En France, ceci a été accompagné et probablement amplifié par la campagne des centres Leclerc, qui avait été très spectaculaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 17 000 panneaux publicitaires payés par une entreprise privée pour expliquer que les chiffres d'inflation ne correspondaient pas à la réalité pendant 2 semaines. C'est quand même un investissement, un contenu financier de la part des centres de Leclerc qui n'est pas négligeable. Et pendant la campagne présidentielle de 2007, les deux principaux candidats ont eu des mots extrêmement durs sur la capacité de l'indice des prix à la consommation à traduire la réalité de l'inflation, et évidemment ceci a une forte influence sur le débat public. de très nombreuses initiatives ont été prises pour essayer d'éclairer le débat public. Je ne vais pas les reprendre toutes, mais dans une première catégorie, il y avait des initiatives qui visaient une meilleure compréhension du décalage entre l'inflation observée et l'inflation ressentie. Dans une deuxième catégorie, des initiatives débouchant sur l'information, sur la fourniture d'informations plus détaillées, notamment les indices catégoriels. On avait même fait un gadget qui était l'indice personnel. Bon, tout ce que ça vaut, les gens rentraient leur panier de consommation et la machine leur renvoyait leur indice d'inflation personnelle. Dans ces cas-là, hein, quand vous êtes dans des phénomènes d'opinion, vous faites ce que vous pouvez. C'est des idées qui vous viennent et vous ne savez pas trop si c'est intelligent ou pas. Les comptes des ménages par catégorie et des expériences de calcul de coûts moyens conformément aux recommandations du rapport de la commission qui avait présidé à l'époque Alain Quinault. Troisième catégorie, les initiatives d'animation du débat social sur l'inflation et le pouvoir d'achat, qui ont été très nombreuses, et on peut ranger aussi dans cette catégorie le rapport récent que Jean-Philippe Cotis vient de remettre au président de la République. Ce qui est très frappant dans cette liste que j'ai reprise complètement dans un papier et que vous pourrez lire, c'est que ces très nombreuses initiatives ont une chose en commun, c'est qu'aucune n'a modifié l'indice. D'où la question, serait-il techniquement légitime de modifier l'indice ? Ça serait évidemment un problème délicat parce que l'indice français n'a jamais présenté aucune pathologie par rapport aux indices des autres pays. Donc ça veut dire que si on changeait l'indice français, il faudrait modifier ceux des autres pays, parce que sinon on arriverait à des graves incohérences. Ceci dit, aujourd'hui, un certain recul sur l'ensemble de ces épisodes et aucune analyse disponible ne justifie un changement d'indice, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été modifié. On pourrait envisager de faire une intégration des achats immobiliers, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Et il y a des travaux qui sont en cours de ce côté-là. Mais la difficulté reste que, à la fois c'est techniquement difficile, notamment parce qu'il faudrait séparer le prix du foncier du prix du bâti. L'idée de mettre le prix du foncier dans un indice des prix à la consommation ne paraît pas raisonnable. Or, il est très difficile de séparer le prix du foncier du prix du bâti, et on a vaguement dans l'idée que si on séparait le prix du foncier, les évolutions de l'immobilier seraient beaucoup moins différentes de l'indice moyen que ce n'est le cas aujourd'hui avec le prix du foncier qui est inclus dans le prix de l'immobilier, donc probablement ça n'aurait pas à grande conséquence. Le traitement des effets qualité, la montée en gamme de la consommation est bien aujourd'hui la manifestation principale de la croissance dans les pays développés. Sur ce traitement des effets qualité, il y a des corrections qui sont faites de façon explicite, mais qui sont au total relativement modestes quantitativement. En tout cas, on aurait une idée très fausse de ce que sont ces effets qualité en prenant uniquement les corrections qui sont introduites à la main par le statisticien et qui sont quand même relativement modestes. Le principal effet, c'est l'effet qui passe par les pondérations entre les niveaux de gamme. Hein, pour donner un exemple un peu caricatural, mais qui vous fera comprendre ce dont il s'agit. Supposons que le prix des télévisions à tube cathodique baisse, mettons, de 5% par an. Supposons que le prix des écrans plats baisse de 5% par an. Donc l'indice des prix agrégé va toujours baisser, quoi que vous fassiez, de 5% par an. Et donc au fur et à mesure que la consommation va se déplacer du tube cathodique à l'écran plat, vous allez avoir tout ça qui passe en effet qualité et donc en effet de volume. Et c'est ça l'effet qui est de très loin, l'effet de volume. bien, mais ça, d'une certaine façon, c'est le cœur même du phénomène de croissance. Hein. Évidemment, il faut que ceci reste du volume, même s'il peut être utile, mais qu'appuyer expérimentalement des prix moyens qui permettent d'approcher la notion de coût de la vie. Donc ma conclusion, c'est qu'on a bien fait de l'indice, même sans être particulièrement conservateur, ni en France, ni ailleurs, l'indice n'a connu la moindre modification. Dans la période récente, il s'est révélé apte à décrire l'accélération inflationniste du premier semestre 2008, puis la stabilisation et même la légère baisse du premier semestre 2009. Parallèlement, le scepticisme subsiste. On a des sondages pour suivre ce que l'opinion pense de l'inflation et des sondages auprès de la population. Et donc on sait très bien que même maintenant, par exemple, il y a des pourcentages importants de la population qui pensent que l'inflation reste élevée, alors que les indices de prix sont plutôt dans la zone négative. Donc il y a un scepticisme assez profond. Mon sentiment, c'est qu'il faut répondre aux demandes d'informations complémentaires. Vous avez vu que les statistiques ont commencé à répondre à un certain nombre d'entre elles. Mais que, ma foi, ça fait partie du devoir des statisticiens que de continuer en essayant d'éviter les critiques de rigidité mentale et d'autisme, mais de donner la meilleure mesure qu'il estime devoir donner de l'inflation, même quand ceci ne rencontre pas le sentiment populaire. Alors, conclusion pourrait paraître un brin naïf, et c'est pour ça que, comme dernière partie, j'ai voulu rajouter quelque chose qui argumente sur les surprises de la crédibilité. La crédibilité, on peut la mesurer, et on sait qu'elle est cumulative, c'est-à-dire la défiance entraîne la défiance, notamment à travers la réputation des organismes, et qu'en sens inverse, il y a dans nos sociétés des phénomènes qu'en anglais on appelle de bashing qui se déclenchent, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui s'auto-entretiennent et qui font que pendant une période, on va avoir des critiques moutonnières qui vont s'exercer dans certains domaines. On sait qu'elle est asymétrique aussi, c'est-à-dire qu'elle est plus longue à acquérir qu'à perdre. Elle est très variable suivant les domaines. On sait qu'il y a des domaines de très forte crédibilité des statistiques comme la démographie et des domaines de très faible crédibilité, j'en ai parlé avec les statistiques d'inflation et de pouvoir d'achat. La crédibilité actuelle remarquable des indicateurs démographiques n'a rien mis en évidence. D'abord parce que la démographie inclut les statistiques d'immigration qui est un sujet d'intense controverse, y compris dans le champ statistique, et d'autre part, nous avons vécu, nous en France, au moment de la changement de technique de recensement, une perte très forte de crédibilité des statistiques démographiques, et donc ça montre que ceci peut se produire. Pour revenir sur cet épisode, la préparation du nouveau recensement avait débouché fin 99. La nouvelle technique de recensement en France, maintenant, est une technique qui fait appel à plus exhaustif, qui fait appel à des techniques de roulement et à des techniques de sondage, et il se trouve que seule la France utilise cette technique. Pour être tout à fait complet, mais on y reviendra si vous le souhaitez dans la discussion, c'est pas inintéressant, les États-Unis avaient prévu de basculer dans cette nouvelle technique aussi, et à la suite d'un processus juridiquement très complexe, ils ont été contraints de garder le recensement exhaustif, ce qui fait qu'à partir du prochain recensement, 2010, ils vont avoir en parallèle les deux résultats, on verra comment ils vont gérer ça, mais ils n'ont pas pu juridiquement passer à la technique, à une technique proche de la technique française. Cette réforme était prête fin 1999, toutes les étapes institutionnelles avaient été franchies, Et pendant l'année 2000, le nouveau dispositif a suscité des controverses aiguës venant des milieux de démographes, sur le thème que la qualité statistique des statistiques démographiques françaises allait s'effondrer, qu'on allait avoir beaucoup moins de détails et beaucoup moins de solidité. Et lorsque, après le vote de la loi du 27 février 2002 qui a mis en place la nouvelle technique, on a lancé la nouvelle enquête en janvier 2004, il y a eu une reprise des controverses fondée sur les mêmes types d'arguments, c'est-à-dire les démographes centrés autour de chaque papier, et une nouvelle source de controverses venant d'élus, dont la figure de proue était Jean-Pierre Barras, maire de Montreuil, très actif sur ce sujet-là à l'Assemblée nationale. Et ces deux groupes, qui sont politiquement très très distincts sur le sujet politique, se sont regroupés pour critiquer très sévèrement la nouvelle méthode du recensement que l'INSEE s'apprêtait à mettre en place. À cette époque-là, l'image du recensement dans la presse était très dégradée, au point de faire craindre un impact négatif sur les réponses et sur la qualité des résultats, ce qui, pour le recensement, est très gênant, dans la mesure où un recensement doit avoir un taux de réponse très proche de 100% pour assurer sa qualité. On n'est pas comme dans les grandes enquêtes, la plupart des grandes enquêtes de l'INSEE, quand vous avez un taux de réponse de 75%, vous êtes très satisfait. Donc pour le recensement, si vous avez moins de 97%, vous ne pouvez pas être satisfait de ce qui se passe. Donc il y a eu diverses polémiques auxquelles l'INSEE a cherché à répondre parfois comme il pouvait. J'ai intitulé cette partie « Les surprises de la crédibilité » parce que tout d'un coup, en janvier 2005, au moment de la publication des premiers résultats, la presse a basculé, comme elle sait le faire, sans qu'on comprenne bien pourquoi, mais de façon tous ensemble, ils sont passés d'une vision extrêmement critique à une vision très positive. Et depuis, je dirais, les statisticiens français vivent dans cette situation où le nouveau recensement a une image très favorable, où la télévision fait chaque année des émissions pour présenter ses résultats. Bon, les résultats ont été assez spectaculaires ces dernières années, notamment parce que vous savez sans doute que la fécondité française a pas mal monté, donc elle s'est placée la première en Europe, doublant même la fécondité irlandaise. Donc il y avait des choses sympathiques et photogéniques à montrer. Enfin, c'est toujours assez surprenant de voir ce type de grand basculement d'opinion. Pourquoi est-ce que les statistiques d'inflation ont une mauvaise image? Pourquoi est-ce que les statistiques démographiques ont une bonne image? Ça reste assez mystérieux. Et vous avez sans doute noté qu'en décembre 2008, les nouvelles populations légales assises sur la nouvelle méthode ont été publiées ont été publiées pour la totalité des communes et des collectivités territoriales de France. Donc là, il y a du vrai enjeu avec des vrais problèmes de dotation financière derrière, etc., sans la moindre contestation de la validité de ces chiffres. Comment peut-on expliquer ce retournement de l'opinion, enfin de l'opinion ou de la presse? Ça, c'est difficile à séparer. La solidité technique de la nouvelle méthode, bon, elle existe, bien sûr, c'est pas moi qui l'ai critiquée, puisque je l'ai mise en place, mais ça ne me semble pas un argument absolument déterminant, d'abord parce que l'indice des prêts à la consommation est aussi une solidité technique avérée. D'autre part, la méthode du nouveau recensement français, comme je l'ai dit tout à l'heure, des incidents qui sont produits aux États-Unis n'est appliqué nulle part ailleurs dans le monde, donc la singularité pourrait faire naître le doute. Et enfin, il y a des problèmes potentiels qui ne sont pas négligeables. Dans mon papier, par exemple, j'ai un peu détaillé la question des doubles comptes. Dans des techniques de recensement exhaustive, le double compte, la personne elle-même s'en aperçoit. Dans des techniques par roulement et par sondage, comme celle qu'on applique maintenant, c'est impossible de s'en apercevoir, parce que d'abord, si les gens ne sont pas interrogés, ça n'a rien d'anormal. Et même, comme je l'explique, il y a quand même pas mal de configurations où il devient normal qu'ils soient interrogés deux fois. Donc finalement, la personne elle-même ne peut plus s'apercevoir des éventuels double comptes. Or, les double comptes en statistique c'est évidemment un sujet très important. L'argument qui consisterait à dire que la démographie est par nature épargnée par les controverses, alors ça c'est complètement faux, je dirais même que quand on regarde les pays étrangers, la démographie est un sujet particulièrement soumis à controverses publiques. Il y a eu des controverses aiguës en Allemagne, des controverses aiguës au Japon, des controverses aiguës au Royaume-Uni, particulièrement dures pour les statisticiens. J'ai donné dans mon papier des dates, par exemple, depuis quand il n'y a plus eu de recensement en Allemagne. Je dirais que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus eu de recensement en Allemagne, parce que les controverses étaient si aiguës qu'on ne pouvait plus faire des recensements en Allemagne. Alors il y a un argument qui peut jouer, c'est qu'aucun acteur politique social n'a participé aux controverses sur le recensement, contrairement à ce qui s'est passé sur l'inflation, où au contraire, il y a eu une implication massive des politiques qui ont considérablement brouillé le débat. Un autre argument qui n'est pas mauvais, c'est que la communication sur le recensement a été professionnelle, et après tout, ça c'est un hommage aux professionnels de la communication. Quand on fait un recensement, on est obligé de se préoccuper de la communication, parce que si vous n'avez pas un taux de réponse très proche de 100%, gaspiller l'argent public et les recensements, c'est cher. Donc il faut faire très attention à obtenir un taux de 100%. Enfin, tout ça, apparemment, a eu un certain impact et il est possible que ça ait joué. Mais je dois dire, après avoir vécu ces problèmes de crédibilité pendant un certain nombre d'années, la seule conclusion que j'en ai tirée, c'est que les retournements restent possibles, qui sont assez difficiles à prévoir et qui se produisent tout d'un coup. Vous les constatez. Mais vous ne savez pas trop pourquoi, finalement, ça s'est produit ainsi. Deux mots en conclusion, parce que j'ai déjà dépassé le temps qui était imparti. C'est une conclusion que je tire pour la statistique française, mais que je tirerai tout aussi bien pour la statistique européenne ou la plupart des statistiques dans le monde. Nous allons dans... avoir à faire vivre la nouvelle gouvernance qui s'est mise en place au niveau européen et au niveau français. Vous avez compris que pour ce qui concerne la qualité, notamment la qualité des comptes nationaux, je pense qu'il serait judicieux d'arrêter le processus de raccourcissement des délais de publication pendant quelques années et de consacrer des gains de productivité à l'amélioration de la qualité et notamment à la réduction des révisions qui me semble excessive. Pour ce qui est de la communication, il faut essayer évidemment d'aller au-devant des demandes, notamment il y a des demandes nouvelles sur les indices de prix ou les indicateurs de pouvoir d'achat, par exemple. L'INSEE a publié beaucoup d'informations nouvelles et il faut essayer de le faire, si possible, au moment où la naissance naît et pas après coup pour réagir à des manques, des frustrations, mais en sachant aussi résister aux pressions sur l'indice des prix. Les pressions étaient, je dirais, heureusement qu'il y avait des normes internationales, parce que sinon, l'idée, à certains moments, que les indices de prix français étaient faux, était une idée quasi consensuelle dans le milieu politique français. Donc, s'il avait été possible de faire voter des lois pour dire qu'il fallait que ça aille plus vite que ça n'allait, ça se serait fait. Alors, c'est limité par le fait que, comme il y a des normes internationales, pas possible. En tout cas, la logique de l'opinion est devenue aujourd'hui une logique forte dans la construction des statistiques, parallèlement à la logique ancienne, qui était plutôt une relation d'une part avec la science et d'autre part avec le pouvoir. Les réactions d'opinion sont souvent assez déroutantes parce que, en même temps que l'opinion devient mieux formée, plus éclairée, et il me semble qu'elle devient de plus en plus moutonnière, et donc on peut avoir pendant des périodes assez longues une espèce d'unanimité considérable, notamment dans la presse, sur un point de vue qui apparaît sans consistance, et puis un beau jour ça change, et tout le monde change en même temps, et ces mouvements sont très difficiles à prévoir. Et de ce point de vue-là, je dirais, un peu comme les économistes, en fait, comme les économistes chercheurs qui veulent faire passer leurs travaux, les statisticiens doivent postuler qu'il y a une certaine efficacité du marché des idées, au moins au bout d'un certain temps, qui va faire en sorte que c'est ainsi que leur utilité sociale va être démontrée. Merci.